Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Merci. D'abord, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Et je trouve que ce colloque illustre bien déjà la nécessaire prise en compte par l'université, par les grandes écoles, par tous les formateurs des enjeux du cyberespace. Dans le dernier plan sur la cybersécurité qui a été présenté par le Premier ministre il y a 15 jours, 3 semaines en Conseil des ministres, il y a cette volonté justement de développer cette formation pour faire en sorte que l'ensemble des élites de la nation, au minimum, soient imprégnées de cette culture, notamment c'est une culture de résilience face à la problématique que peut toucher l'ensemble des réseaux. Avec Nicolas Arpajon, puis Myriam Kemener et d'autres encore qui sont dans cette salle, ça fait plusieurs années que nous sommes, non pas à la pointe d'un combat, mais d'une volonté de faire avancer les choses, parce que ce cyberespace, ce n'est pas aujourd'hui pour nous une évolution, c'est une révolution. C'est un changement complet de paradigme, c'est un changement complet d'espace, c'est un changement complet, c'est une rupture, si je puis dire, par rapport au grand principe de la tragédie où il y avait une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action. Aujourd'hui, cette unité de temps, cette unité de lieu, cette unité d'action, elle est en train d'exploser en vol. Le continuum que vous m'avez demandé de développer ce matin est véritablement un des sujets clés du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008. Défense et sécurité nationale, mais vous voyez que le terme le plus fort peut-être c'est sécurité nationale. Il montre que le gouvernement, l'ensemble des acteurs aujourd'hui considèrent que la notion de défense n'est qu'une partie simplement d'un concept beaucoup plus large, celui de sécurité nationale, qui englobe l'ensemble des composantes civiles, économiques et militaires qui concourent justement à cette sécurité nationale. Donc ce livre blanc de 2008 est à mon avis très novateur dans son approche, même si sur la cybercriminalité, cyberespace, il est relativement peu développé, puisqu'il laisse en quelque sorte à l'État le soin, en toute discrétion, de monter son programme de lutte contre la cybercriminalité, et pas simplement contre la cybercriminalité. Nous sommes effectivement dans un continuum défense-sécurité où la cybercriminalité, qui est historiquement le premier phénomène qui est apparu, aujourd'hui s'imbrique dans une autre composante qui est le cyberterrorisme, lequel n'est pas totalement éloigné d'un autre phénomène qui est celui désormais de la cyberguerre. Parce qu'en fait, lorsque Paul Barron a créé au début le premier réseau maillé pour l'armée américaine, au moment de la guerre froide et du conflit de Cuba, Paul Barron voulait en quelque sorte mailler le réseau des télécommunications pour que, en cas de frappe nucléaire, on n'ait pas, qu'on ait une bonne résilience et qu'on puisse toujours communiquer au sein de l'armée américaine. De cette toile est né finalement le réseau ARPANET et puis le réseau Intranet. Et de ce fait, même si on ne peut pas résumer le numérique au seul Internet, on a créé un nouvel espace, vous avez parlé tout à l'heure d'un nouvel espace, espace de nouveaux enjeux. L'homme, à chaque fois qu'il a découvert un espace, a considéré que c'est d'abord un espace de liberté, et après, il a vu apparaître les prédateurs, et il s'est dit, maintenant, il faut faire un espace de sécurité. Et donc, après l'espace terrestre, l'espace maritime, l'espace aérien, l'espace extra-atmosphérique, voici aujourd'hui le cyberespace, avec ses prédateurs. Parce que, évidemment, tous les fondateurs ont trouvé que cette liberté est extraordinaire, elle permettait l'accès à la connaissance, les échanges, notamment les échanges économiques, les échanges culturels, et aujourd'hui, on voit que, progressivement, cet espace, d'autres y ont trouvé un intérêt, c'est-à-dire tous les prédateurs qui viennent agir sur cet espace. Pourquoi les prédateurs ont commencé par la cybercriminalité ? Eh bien, tout simplement parce que, il y a, à mon avis, quand on fait une analyse historique de notre droit pénal et des comportements dans la société, une très grande correspondance entre le développement de l'économie et l'action des êtres humains. Au commencement, il n'y avait qu'un secteur primaire, le secteur agricole. Et quand il n'y avait qu'un secteur agricole, eh bien, on tuait, on volait, on violait, on prenait en esclavage, et en fait, on s'attaquait aux personnes. Tu ne tueras pas Cain et Abel. Arrive un secteur secondaire, celui du développement des biens manufacturés. Alors, on va voler, on va détruire, on va dégrader. Et à ce moment-là commence à s'opérer un arbitrage dans l'esprit des prédateurs. Il faut que j'obtienne un profit maximal avec un risque pénal minimal. Et comme en plus, tuer, violer devient de plus en plus réprimé sur le plan de la conscience humaine, alors on va se reporter sur les infractions du second secteur, c'est-à-dire en fait sur les atteintes aux biens. Il y aura toujours des atteintes aux personnes, il y aura des atteintes aux biens. Et puis arrive le développement du secteur tertiaire, c'est-à-dire en fait le développement des services. Alors à ce moment-là, on va se reporter sur les infractions dites intelligentes, parce qu'elles sont beaucoup plus complexes dans leur matérialité, et donc dans la mise en évidence des éléments constitutifs. Et finalement, on peut avoir des profits bien supérieurs, avec un risque pénal bien plus faible. Donc vous voyez, nouvel arbitrage, on va redescendre d'un cran, si je puis dire, et aller travailler sur un autre domaine, un autre registre. Enfin arrive le cyberespace, enfin arrive l'espace numérique. Et c'est là où on voit aussi se profiler cet arbitrage, avec un juge qui n'a jamais été aussi loin du prédateur, et une victime qui n'était jamais aussi proche de son agresseur. Parce que l'agresseur, il peut rentrer chez vous sur votre propre ordinateur. Quant au juge compétent, il peut être à plusieurs centaines de kilomètres de là. On voit donc, si vous voulez, aujourd'hui de plus en plus, cet arbitrage faire glisser progressivement l'action des prédateurs sur le champ de la cybercriminalité. Et c'est un champ qui concerne non seulement les atteintes au système automatisé de traitement de données, mais c'est toutes les infractions de contenu, ce sont toutes les infractions qui sont facilitées, amplifiées par le cyberespace, tout simplement en termes, par exemple, d'escroquerie. On voit ce que représente une escroquerie, par exemple, à la Nigériane, avec ce que ça peut produire. Donc, il y a un problème ?
Non, est-ce que...
Faut que je le mette... Bon, d'accord. Oh, bon, excusez-moi. Donc, vous voyez que aujourd'hui, la cybercriminalité est devenue, me semble-t-il, le nouveau champ de prédilection des cybercriminels. Je ne vais pas dire que la chute, la diminution progressive de la délinquance n'est pas une réalité, ce ne serait pas politiquement correct. Simplement, je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, une grande partie des phénomènes criminels est en train de changer d'espace pour investir le champ de la cybercriminalité, où là, les investigations sont beaucoup plus complexes, parce qu'en fait, les personnes peuvent agir à distance, et que le temps de la justice est bien supérieur au temps de l'action qui se calcule en microsecondes. Donc vous voyez que le champ de la cybercriminalité est aujourd'hui un véritable enjeu. Mais progressivement, on voit qu'il est en train d'innerver, je peux dire, le champ du cyberterrorisme. Alors les terroristes l'ont bien compris parce qu'en fait, ils peuvent utiliser le cyberespace à la fois pour communiquer. On voit qu'Al-Qaïda aujourd'hui n'existerait pas s'il n'y avait pas cette capacité de travailler en maillage à l'échelle planétaire, capacité de commettre aussi des infractions, parce que pour financer le terrorisme, il faut aussi aller tirer des profits sur le cyberespace, capacité aussi de communiquer, de transférer des moyens financiers, et donc on le voit bien avec tous les black markets sur le cyberespace qui se développent aujourd'hui, et puis aussi, alors ça c'est un problème qui n'a pas encore été véritablement vérifié, c'est la possibilité de commettre des actes terroristes grâce au cyberespace, notamment en s'attaquant aux SCADA, c'est-à-dire tous les systèmes qui permettent d'acquérir à distance des données. Donc on voit bien que l'imbrication, même si les motifs du terrorisme ne sont pas ceux du criminel habituel, de droit commun, on voit bien l'imbrication des deux et la problématique de la nécessité de travailler d'une manière continue sur l'ensemble de ce spectre. Et puis, dernier point, c'est le problème de la cyberguerre, parce que quand le prédateur commence à voler, ensuite il terrorise, et enfin il est le guerrier qui combat, on voit bien depuis 2007 et 2008, l'Estonie et la Géorgie, que le cyberespace est devenu un lieu de guerre. D'ailleurs, les États-Unis récemment ont encore dit « si vous m'attaquez, je considère que je pourrais riposter en envoyant une frappe avec un missile ». Là, c'est là où se posent de véritables problèmes, parce qu'on voit bien le continuum criminalité, terrorisme, guerre, parce qu'en fait, c'est toujours l'emploi des mêmes moyens, même si les cibles sont différentes, les mobiles sont différents. Simplement, là où il y a un véritable discontinuum aujourd'hui, c'est celui du droit de la guerre, par rapport au droit commun que l'on applique lorsqu'on lutte contre le criminel ou contre le terroriste. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsqu'on est dans une opération de guerre, on doit respecter les conventions de la Haye, les protocoles additionnels, les conventions de Genève, et donc respecter le principe de légitime défense. Qu'est-ce que légitime défense sur Internet aujourd'hui ? Quand vous êtes attaqué, au bout de combien de temps vous découvrez l'attaque dont vous êtes victime, et êtes-vous en mesure de connaître votre agresseur ? L'anonymat, le principe que vous connaissez bien, rend beaucoup plus difficile aujourd'hui de retrouver, de remonter à la source pour trouver l'auteur. Aujourd'hui, qui est capable de dire « je suis sûr que c'est tel organisme russe qui s'en est pris au système estonien en 2007 ?» Personne. On a des doutes. Qui est sûr que c'est l'armée populaire de libération chinoise qui s'attaque à nos réseaux, notamment ceux du ministère de l'économie et des finances? On a des doutes. On n'a aucune certitude. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce continuum où on voit bien que les prédateurs jouent sur l'ensemble des registres, on voit bien qu'on a un discontinuum juridique, c'est qu'on ne sait pas très bien finalement comment prendre en compte sur le plan du droit de la riposte, du droit de protection, toute la partie qui touche au domaine de la cyberguerre plus précis. Alors, je termine simplement en disant la chose suivante. C'est que ce continuum, il nous amène aujourd'hui à considérer le cyberespace d'une manière totalement décloisonnée. D'abord, sur le plan international, c'est évident, et on va voir de plus en plus le cyberespace devenir un espace d'expression de la puissance. Pendant certains temps, on a dit le cyberespace va être un espace, on va dire, plutôt tactique, parce que chacun va faire ses transactions, chacun va faire ses interrogations de base de données. Aujourd'hui, on est rentré dans un domaine totalement stratégique où c'est véritablement la notion de puissance qui est en cause. Dernier développement avec le G8 et autres, il s'agit de la puissance économique ou même de la puissance militaire, de la puissance politique, puissance diplomatique, puissance culturelle. On est vraiment dans une stratégie aujourd'hui de puissance sur le cyberespace. Et cette stratégie de puissance, par définition, elle met en cause l'ensemble des acteurs planétaires, et donc elle nous oblige à avoir une vision totalement déconnectée des frontières. Et à l'intérieur de nos pays, nous voyons bien aussi la nécessité de déconnecter complètement, de décloisonner tout ce qui jusqu'à présent servait un petit peu de référentiel. La différence entre le public et le privé perd une grande partie de son sens. La différence entre l'étatique et le non-étatique, entre ce qui est militaire et ce qui ne l'est pas. Vous voyez bien que si on veut s'intéresser par exemple au problème de la cyberguerre, ce ne sera pas simplement l'affaire des militaires. Et la cybercriminalité ou la cyberterrorisme, la lutte contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme, ne sera pas simplement l'affaire des policiers, des gendarmes et des magistrats. Donc aujourd'hui, c'est une véritable vision interministérielle qui est nécessaire. C'est aujourd'hui, nous ne pouvons plus concevoir, je dirais, la liberté, la sécurité, la responsabilité sur le cyberespace avec des approches cloisonnées, ministérielles. Elles sont forcément interservices, interministérielles, internationales. Et ça, je crois, c'est une rupture profonde dans nos modes de pensée, surtout pour nous, Français, qui sommes assez cartésiens et assez verticaux dans nos organisations. Et je crois que c'est une véritable révolution. Et ce colloque, me semble-t-il, est un des éléments clés de cette progression des esprits. Ce que je voulais dire, enfin, c'est que, pour moi, et j'en suis intimement convaincu, qui suis un acteur de la sécurité et un acteur de la défense, je crois qu'il faut d'abord prendre le problème du cyberespace par rapport à ce qui est essentiel pour l'homme, parce que nous sommes aujourd'hui dans une révolution qui concerne l'homme, l'être humain, pour une fois. Et on voit bien tous les enjeux du cyberespace par rapport à l'identité de la personne, le droit à l'oubli, l'usurpation d'identité, la diffamation, l'altération de l'image sur le cyberespace. Donc la vraie question qui se posera, c'est la question de l'homme. Et pour vraiment répondre à cette question de l'homme, il faut l'aborder, certes, avec cette approche de sécurité, mais en ayant toujours à l'esprit que, quel que soit l'espace, la notion même d'ordre public repose toujours sur une notion d'équilibre, équilibre entre ce qui est nécessaire pour assurer la liberté et équilibre entre l'indispensable liberté sans laquelle la vie n'aurait pas d'intérêt. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser de côté les tout sécuritaires et les tout libertaires et enfin aborder entre les deux une véritable démarche de responsabilité. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire.